Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous à la fois sur 01 TV, vous le savez, 01net.com, la chaîne YouTube de 01 TV, puis peut-être êtes-vous en train de nous regarder sur votre télé, sur les box SFR Orange Free et Fransat, et puis un petit coucou à tous ceux aussi qui nous suivent le dimanche matin sur BFM Business, radio et télé, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, donc avec tout à l'heure un sujet qui perso moi me passionne, c'est le tourisme spatial. Où en est-on? Vous allez voir du vol parabolique en passant par le vol suborbital et puis après le grand saut du côté de l'ISS. Alors évidemment c'est pas le budget, mais ça existe aujourd'hui. Et on en parlera avec Antoine Monnier, qui est un journaliste que je reçois de temps en temps dans De quoi je me mêle et qui est passionnant sur ce sujet et qui est journaliste à la chronique spatiale. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir, page Facebook de quoi je me mêle bien sûr, sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec le club de la presse IT, bien sûr, Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour François.
Journaliste à 01net.com et c'est Gonzague d'Ambricourt qui est venu nous voir, qui a bravé le froid avec son vélo.
C'est vrai.
À réaction.
Eh bien, écoute, ouais, réaction, ça pourrait faire fondre la neige et le verglas sur les pistes, que ce serait pas mal.
Ça serait pas mal. Il faudrait que tu sillonnes toutes les rues parisiennes.
Voilà, je vais m'y...
C'est un peu compliqué. On est ravis de te retrouver.
Avec plaisir.
Voilà, blogueur, entrepreneur, passionné de nouvelles technologies et qui va avec Nicolas commenter l'actu de cette semaine. Et on va commencer par mon produit coup de cœur. Et je sais que toi aussi, il te plaît beaucoup.
Oui.
C'est un smartphone. Alors, on connaît les smartphones pliants, mais peut-être moins les smartphones qui s'enroulent. Et on a pu toucher, voir, manipuler un smartphone étonnant, Nicolas.
C'est un peu une surprise d'ailleurs qu'on ait pu l'essayer parce que rappelez-vous, ça a été annoncé en novembre, on en avait parlé justement dans De quoi je me mêle, de ce smartphone à écran déroulant, extensible, je ne sais pas encore quel sera le terme officiel, moi je parie sur déroulant, mais on verra.
Déroulant.
Oui, smartphone déroulant, ça déroule automatiquement, soit il n'y a pas d'action d'utilisateur à faire, mais à l'époque on en parlait comme un produit conceptuel qu'on ne verrait probablement jamais et déjà on s'étonnait de voir des prises en main en Chine, on pensait que c'était faux, que le produit n'existait pas. Et finalement Oppo est tellement confiant qu'ils ont exporté ce smartphone conceptuel à l'étranger. Il n'y en a qu'un seul en France, hein. Donc ce n'est pas non plus un produit sur le point d'être commercialisé. Il y a un modèle en circulation en France. Il va faire le tour d'autres pays européens, justement, à la rencontre de la presse. Mais le but, justement, d'Oppo est de vous montrer que cette technologie, elle existe. Et on a eu l'opportunité, tous les deux, je crois, de l'essayer. On peut dire que c'est vraiment bluffant. On a en soi un écran de smartphone qui est on ne peut plus normal, dans le sens où, contrairement à un smartphone pliant, où on sent qu'il y a un petit peu de jus entre les deux parties de l'écran, là, on ne peut pas tirer sur l'écran. Tout est vraiment extrêmement bien maintenu.
Voilà, c'est motorisé. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous à la télé ou en vidéo, vous voyez ces images qui sont, mais on a l'impression d'un truc magique, quoi.
On croirait
que c'est encore plus bluffant que le Fold de Samsung. Et en plus, alors on ne l'a pas eu assez en main pour se rendre compte si effectivement c'est un téléphone qui pourrait peut-être demain arriver dans notre quotidien, mais je trouve ce concept plus intéressant que le smartphone pliant, en fait.
Le concept, il est plus intéressant parce qu'il a un côté transparent et moins encombrant. Ça se fait vraiment plus intelligemment. Maintenant, le pliant est certainement celui qui a le plus d'avenir dans un futur proche, dans le sens où il est possible de le fabriquer en très grande quantité et sans doute de faire baisser les prix en dessous des 1000 euros dans les prochains mois. Alors que sur ça, on n'a aucune indication de la possibilité à la fois de le fabriquer et surtout à quel prix. Je pense que ça serait un prix monstre.
Quand on pose la question au qu'est-ce qu'ils disent? Ils bottent en touche sur toutes les questions.
Ils sont assez simples là-dessus. Ils disent assez clair là-dessus. Ils disent que ce produit ne sortira jamais, que c'est un concept à 100%, c'est assumé, mais que en soi la technologie chez eux, elle est considérée comme maîtrisée, donc on la verra. Quand, je ne sais pas. Moi, je ne serais pas étonné.
Donc, ce modèle-là n'existera jamais.
Il n'existera pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a beau être plutôt bien équipé, il n'y a qu'un seul appareil photo à l'arrière. C'est la preuve qu'il n'a pas vocation à être un vrai smartphone grand public. Je crois que le dos est en plastique aussi, justement, pour baisser justement le poids du produit et rendre plus facile sa prise en main. Mais tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils feront sur un produit ultra haut de gamme. Mais il y a plusieurs possibilités. Soit c'est à l'horizon de plusieurs années, avec un produit qui est vraiment grand public, soit, et c'est peut-être, je pense, vers ça qu'on va se diriger, vu le succès qu'est en train de rencontrer ce produit dans la presse, à peu près tous nos confrères qui ont pu l'essayer sont d'accord avec nous, c'est super, je pense que Oppo va être tenté de sortir un téléphone à écran déroulant, un téléphone qui peut devenir une tablette de lui-même, dans les prochains mois, mais sans doute à un prix complètement délirant en visant un public ultra-élitiste.
Gonzague ?
Mais moi, je trouve que c'est génial. Franchement, c'est marrant, parce que de base, je ne suis pas trop emballé par tous ces concepts d'écran, et on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'on a... Et pour le coup, vous avez eu dans les mains un produit de science-fiction.
Complètement.
Oui, tu as l'impression de voir une 3D quand le truc s'étend dans ta main.
Ouais, tu as l'impression, où est le plugin Photoshop, quoi ?
Non, exactement.
Où est-ce que vous l'avez sorti, le machin ?
Franchement, voilà. Donc, j'ai été bluffé par la vidéo et l'article que j'ai lu sur le produit. Je trouve ça... Bon, après, il y a toutes les limites que vous avez aussi évoquées, à savoir comment ça se passe quand il tombe, comment ça se passe s'il pleut, s'il y a des saletés qui entrent dans le mécanisme, etc. Mais la réalisation pour un produit à si petite quantité de production est bluffante.
C'est absolument, et ce qui est assez fort, moi j'aime bien ces petits soucis du détail. En fait, déjà, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut l'expliquer parce que pas tout le monde comprend. On peut se dire c'est magique ce truc. En fait, un des bords de l'écran est incurvé, et contrairement aux autres smartphones où l'incurvation s'arrête là, en fait là il y a une sorte de trou dans l'écran qui permet à l'écran de s'enrouler derrière, sauf que ça on le voit pas parce que nous on a un vrai dos à l'arrière, sauf que quand vous appuyez sur le bouton sur le côté, l'écran va s'étirer sur la largeur pour permettre à ce qu'à l'arrière d'apparaître devant. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a plein de limites, on peut se demander ce que ça va donner sur le long terme, mais c'est absolument bluffant. Et ce que j'adore, c'est ça que je voulais dire, c'est que sur le logiciel, Oppo a créé des petites animations qui permettent de donner l'impression que l'écran s'agrandit visuellement.
Donc
quand vous élargissez une vidéo, il y a une sorte de flou d'arrière-plan qui va apparaître à l'image, qui permet de vous donner l'impression que ça s'agrandit, et c'est
parce
super.
Après, on va clôturer là ce sujet parce qu'on a beaucoup de choses aussi à évoquer, mais il y a tout l'aspect soft aussi. Il faut un Android spécifique pour ça, et ça, c'est une autre paire de manches.
Bien sûr. Après, on peut partir du fait que les applications tablettes seront celles que vous aurez en écran étendu, et les applications smartphone. Donc, ce n'est pas non plus tout à refaire, mais il va évidemment falloir travailler beaucoup de choses. Donc, c'est des débuts, mais c'est extrêmement prometteur.
Franchement, moi, je suis comme Gonzague, je suis scotché par cet appareil. C'est incroyable. Toujours dans ces smartphones un peu bizarres, qui se plient, qui se déplient, qui s'ouvrent, il y a le Surface Duo, Nicolas, qui arrive en France, ça y est.
Oui, c'est bizarre, c'est le mot, parce que c'est quand même très étonnant comme proposition, le Surface Duo de Microsoft. Il sera disponible la semaine prochaine, le jeudi 18 février, donc ça arrive très vite. À un prix, on va commencer par ça, parce que je pense que ça va vous permettre très vite de vous dire « Ok, je ne l'achèterai pas », 1549€ minimum, 1649€ si vous voulez la version avec 256 Go de stockage. Rappelons-le, le Surface Duo, c'est un appareil très bizarre, qui est tout petit, qui a deux écrans, qui est très très fin, qui peut se plier comme un livre un peu dans tous les sens, qui vous permet donc de le poser face au temps, de le poser sur une table. L'idée, c'est d'avoir deux écrans pour être plus productif. Maintenant, là où c'est très étonnant, c'est que ça a été annoncé il y a deux ans quasiment, c'est sorti l'automne dernier aux États-Unis, et il n'y a pas eu d'évolution dans les caractéristiques techniques depuis. Donc on se retrouve avec un processeur qui a quasiment trois ans, avec... pas d'appareil photo à l'arrière, on n'a qu'un seul appareil photo frontal de 11 mégapixels qui a priori ne serait pas très bon. Il y a plein de choses comme ça, pas de 5G. Donc on peut se dire, est-ce qu'à ce prix-là, on est vraiment sur quelque chose de révolutionnaire ? J'en doute. On l'a reçu en test à 01net.com, donc on vous dira tout ça si tout va bien la semaine prochaine quand on aura avancé. Je trouve le concept très sympa. Mais j'ai un petit peu peur que ce soit encore trop tôt pour trouver son public et que Microsoft se tire une balle dans les pieds.
Et Gonzague, en plus, c'est un produit Microsoft sous Android. C'est ça qui est...
Ouais, c'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on voit depuis des années que Microsoft cherche à trouver quel angle adapter et garder entre l'avènement des processeurs ARM, parce que là aussi, ils se disent tiens, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont essayé, ils ont fait Surface sous ARM, les smartphones où on s'est dit... Et là, t'es quand même... à mi-chemin entre un smartphone et un ordinateur, qu'est-ce qu'on en fait ? Et effectivement, avec ce prix très élevé, d'ailleurs, c'est le prix des smartphones les plus haut de gamme du marché et des performances qui seront peut-être anémiques en relation avec ce qui se fait aujourd'hui dans le secteur, c'est peut-être un peu compliqué.
Mais d'ailleurs, les reviews, les premières reviews américaines ont été catastrophiques.
Hein, elles n'ont pas été bonnes dans Microsoft. Après, moi, ce que j'ai pu discuter avec des représentants de l'entreprise avant de récupérer mon exemplaire de test, eux, ce qu'ils disent, c'est que ce produit ne se destine pas du tout au grand public, mais aux fans de technologie, à ceux qui veulent l'avoir à tout prix, et que voilà, dans le futur, ça sera sans doute meilleur. Mais
et attention, l'écran n'est pas pli. Je ne sais pas si on l'a bien précisé. Hein, ce sont deux écrans avec une charnière au milieu.
Et c'est deux écrans entourés de bordures plus grosses que celles du premier iPhone. C'est aussi le truc qu'il faut prendre en compte. C'est très étonnant de voir ça sur le marché aujourd'hui.
Ouais, on ne sait pas trop pourquoi Microsoft s'aventure en fait dans ce domaine-là. Mais écoutez, bon, on essaiera d'en savoir un petit peu plus. Gonzague, eh bien, puisqu'on est dans les écrans un peu, j'allais dire chelou, mais non, on ne peut pas dire
puisqu'on est dans les écrans un peu chelou, c'est assez marrant. J'ai Lenovo qui m'a prêté le ThinkPad X1 Fold. Alors, vous l'avez déjà eu dans l'émission et c'est rigolo parce que pour moi, c'est vraiment la première fois que j'utilise une machine dont l'écran se plie. Donc on le voit bien pour le coup, et c'est toute la différence avec le smartphone d'Oppo, c'est que quand tu as la pliure, tu as vraiment des marques ici dans l'écran. Et c'est assez rigolo parce que du coup, ça fait plusieurs trucs en un. Ça fait quand même un ordi que tu peux utiliser comme ceci. Je ne sais pas si on le voit d'ailleurs.
Oui.
Voilà, que tu peux installer comme ça et utiliser en accessoire avec son clavier dans ce sens-là. Tu peux venir mettre le clavier pour recouvrir dessus et ça te fait un demi-ordinateur. Mm-hmm. Ou tu peux l'utiliser en tablette dans ce sens-là. Donc, c'est marrant. Après, c'est très cher. C'est une machine qui coûte plus de 2000 euros. Donc là aussi, il faut investir. Et c'est sans les options sympas, parce que si tu veux la 5G et tout ça, il faut rajouter. Si tu veux le clavier, c'est une option. Si tu veux le stylet, c'est une option. Donc, je ne sais pas si ça trouvera son public aujourd'hui. C'est peut-être pareil. Et d'ailleurs, tu vois, là, il bug. Il s'est coincé dans ce format où c'est censé prendre tout l'écran, mais ça ne le fait pas.
Et, si tu payes ça 2000 euros, il faut qu'il y ait des bugs aussi. Vraiment, ce n'est pas drôle.
C'est pas drôle.
Et pour tous ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent en audio, comment vous expliquez ce que c'est?
C'est un peu comme un livre, un espèce de livre qui ferait la moitié d'une page à quatre, que tu peux ouvrir en deux, du coup.
Voilà. Et dedans,
il y a un grand écran.
Voilà, un grand écran.
Ça fait genre 13 pouces. Avec une machine, voilà.
Qui se plie, l'écran se plie.
Ouais, hein. Qui se plie uniquement dans un sens, hein, uniquement pour le fermer ou le réouvrir, que tu peux aussi maintenir en position moitié ouverte. Donc, tu le poses. Et ça tient, pour le coup, il y a suffisamment d'équilibre. Mais c'est vrai que c'est une machine qui cherche encore peut-être d'une part son public, une finition qui pourrait être améliorée, hein, ça je crois que...
Alors c'est sous Windows
Windows 10.
Avec, de l'Intel à l'intérieur et
avec
tout ça,
l'Intel
mais visiblement il y a un processeur un peu anémique, enfin c'est pas puissant.
C'est un i5 qui n'est pas une fusée. Et donc, il y a une couche logicielle rajoutée par Lenovo pour faire l'adaptation de l'écran selon quelle est la position de la machine, pour comprendre est-ce que tu as mis le clavier. Dans ce cas-là, on doit afficher que la moitié. Mmh. Dans quel sens tu le tiens, etc.
Bon. Encore une fois, alors on vit une période, et c'est vrai que nous, c'est passionnant, parce qu'on voit qu'il y a des trucs qui marcheront jamais, mais l'avantage, c'est que ça, en voyant ce type de choses, c'est aussi très important pour ces marques-là, parce qu'en termes d'image, mais aussi de laboratoire, hein, pour se dire, on annule ça parce que ça marchera jamais. Tiens, en revanche, il y a une appétence pour les écrans roulables. Oppo, peut-être, va sortir dans un an un téléphone qui sera avec cette technologie. Donc, c'est tout ça, c'est passionnant, hein, bien sûr.
C'est sûr.
Nicolas, Xiaomi aussi, qui a fait pas mal d'annonces ces derniers jours, avec toujours cette volonté de casser les prix sur la technologie. Hein.
Toujours avec Xiaomi. Alors, ils font ça sur à peu près tout, sauf sur le smartphone maintenant, ou plutôt ils essayent d'augmenter les prix.
C'est plutôt
la stratégie inverse. Ouais. En l'occurrence, on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines, donc je vais aller vite sur le Mi 11, qui est leur nouveau smartphone haut de gamme. On le connaissait déjà, il avait déjà été montré en Chine. C'est le premier smartphone avec un processeur Snapdragon 888.
Qui est le top du top
dans l'univers Android. Pour l'année, voilà, ça sera vraiment le
il
smartphone.
Il n'est même pas sur la S21 version américaine ?
Si, il est sur le S21 version américaine, mais il a été annoncé avant le S21 en Chine, donc techniquement il lui a piqué le titre de premier smartphone avec un processeur Snapdragon. Donc du coup ce Mi 11, il va arriver en France, ils vont annoncer le prix la semaine prochaine. Nous, selon les indiscrétions qu'on a pu obtenir, ça sera 799 euros en France, donc ça sera un peu plus cher que dans les autres pays européens. On verra pourquoi Xiaomi justifie ça.
Cela dit, s'il est à ce prix-là, pour avoir le top du top
mais
du processeur...
Mais justement, c'est tout le problème, c'est que c'est pas le top du top. C'est celui-là, il succède au Mi 10. Il y avait un Mi 10 Pro, rappelez-vous. Et ça, Xiaomi, ils n'ont pas oublié. Donc, pour éviter que tout le monde parle du prix à 1000 euros du nouveau Xiaomi Mi haut de gamme, ils commencent par celui-là et plus tard, il y en aura d'autres. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y en aura deux autres. Il y aura un Mi 11 Pro et un Mi 11 Pro Plus. Parce qu'on adore faire des noms à rallonge dans le milieu de la tech. Je ne sais pas trop quelles seront les fonctions, pour être honnête. C'est juste qu'il y en aura deux autres. Mais normalement, on devrait avoir des prix beaucoup plus élevés à ces endroits-là.
Oui, ça serait l'équivalent du S21 j'allais dire entrée de gamme, mais...
Ça, on peut dire ça, en réalité. Il oui, n'y a pas de zoom sur le Mi 11, par exemple. Ils vont réserver ça aux pros, donc ça reste voilà, un smartphone haut de gamme, intermédiaire, et parce que Xiaomi essaye de casser les prix.
En revanche, pour la télé, là, c'est
sympa. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que vous savez, Xiaomi s'est lancé dans le... Bon, ils sont sur les télés depuis longtemps en Chine, puisqu'ils sont sur tout en Chine. on peut résumer cette marque comme ça. Mais ils sont sur le marché de la télé en Europe depuis quelques mois maintenant, avec des produits plutôt d'entrée de gamme, qui coûtent pas cher du tout, qui sont pas incroyables, mais bon, qui ont plutôt bon rapport qualité-prix. Et là, ils attaquent le haut de gamme, et avec le prix, ça fait très très mal. Le premier téléviseur haut de gamme, il s'appelle le Mi TV Q1, Q parce que c'est du QLED, donc c'est une dalle Samsung, hein, on peut imaginer ça, avec de l'HDMI 2.1, avec du Dolby Vision, de l'HDR 10+, avec Google Assistant qui fonctionne sans la télécommande, vous pouvez solliciter OK Google et ça va fonctionner directement sur la télé, donc on est sur du haut de gamme avec une très bonne dalle. La taille, c'est du 75 pouces.
Et c'est du QLED. Hein,
c'est du QLED, oui, tout à fait. Et si on compare, en fait, sur le marché, ce que font les autres constructeurs en QLED à 75 pouces, vous êtes aux alentours des 3000, voire 4000 euros sur le ultra haut de gamme. Avec Xiaomi, on a un prix d'appel à 1299 €. Donc, c'est moins cher que certaines télés 55 pouces ailleurs sur du QLED haut de gamme. Et surtout, vous avez un prix de lancement qui est à 999 €. Donc là, si vous voulez une très grande télé pour chez vous, j'ai envie de vous dire, attendez les tests quand même, parce qu'on sait jamais, on peut avoir une mauvaise surprise, mais quand même, à 999 €, on prend pas trop le risque d'être déçu.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment un super rapport qualité-prix pour du QLED et pour toutes ces options en fait, parce qu'on trouve aujourd'hui des télés à 1000 €, 75 pouces,
mais c'est pas du QLED, c'est pas du HDMI 2.1, c'est pas toutes les normes HDR.
Exactement, là on a les toutes dernières techno, c'est intéressant hein, Gonzac,
c'est
toi,
génial.
Je sais que tu aimes beaucoup comme moi, les belles télés, les belles images.
J'ai beaucoup cherché avant d'investir sous tes bons conseils dans une très belle LG OLED, mais qui coûte 2000 €, elle fait 65 pouces.
Et elle fait 65 pouces.
Là tu obtiens une 75 pouces. Et si tu la précommandes maintenant pour 1000 € environ, c'est bluffant. C'est bluffant. Et effectivement, avec beaucoup de techno embarquée, et même si la qualité n'est pas le top du marché, tu peux te dire que pour 1000 €, j'ai eu une télé d'une taille complètement dingue. Enfin, genre, il n'y a pas grand monde qui a des télés 75 pouces à la maison. Hein. Déjà,
non,
65,
c'est quand même pas. Il y a encore quelques années, ça coûtait 10-20 000 € une télé 75 pouces.
Non, donc ils ont vraiment démocratisé certaines choses dans la technologie et je trouve que c'est pas mal. Je suis curieux de l'avoir.
Voilà, Android TV, enfin, on a tout ce qu'il faut pour.
On ne peut pas être trop déçu. Il y a des chances, évidemment, la qualité ne sera peut-être pas aussi bien
que sur
Samsung QLED. Samsung QLED sera pas aussi
bien.
Comme l'équivalent coûte 3 000 € chez Samsung. Bon, pour trois fois moins, tu peux pas vraiment te plaindre.
Et rappelons qu'il y a aussi des personnes qui achètent des téléviseurs sans vraiment regarder les caractéristiques ou la calibration de l'écran. Ils veulent regarder la TNT globalement ou regarder des séries sur Netflix, de temps en temps jouer, les matchs de foot. Et la 75 pouces à 1000 € en QLED, on risque vraiment d'avoir.
Et puis c'est rare aujourd'hui d'avoir des télés mauvaises, quoi, avec de mauvais traitements vidéo. C'est sûr que voilà, Samsung, Panasonic, LG, tout à l'excellence, Sony aussi, mais. Franchement, après, voilà, au-delà des yeux, des regards experts, franchement, les télés sont vraiment très très bonnes aujourd'hui. Un mot sur la 5G. On voit aussi que la bataille de la couverture 5G n'est pas prête de s'arrêter. Hein. On voit que les opérateurs se battent à coups de communiqués de presse pour couvrir le plus de villes possible.
Oui, c'est ça. Lundi, Bouygues Télécom annonce être le premier à couvrir la ville de Bordeaux. Mardi, SFR annonce que lui aussi couvre la ville de Bordeaux. Voilà, c'est de la communication, c'est logique. C'est pas tellement surprenant en soi, parce que Bordeaux, c'était une des villes pilotes pour les tests 5G. Il y avait une autorisation de l'ARCEP. Donc du coup, avant même que la 5G arrive en France, les testeurs pouvaient jouer avec la 5G à Bordeaux. Le problème, c'est que la municipalité, elle n'était pas d'accord avec la 5G. Elle bloquait. Donc du coup, ils n'ont pas pu la lancer alors que les antennes étaient déjà là, que le réseau tournait. Donc c'était un petit peu dommage en soi pour les habitants technophiles de Bordeaux. Là, ça y est, c'est disponible.
D'ailleurs, la mairie a gueulé, je pense. Hein,
ça va être très rapide sur cette partie parce qu'on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas si c'est la mairie qui a débloqué la situation. On ne sait pas s'il y a eu un recours. On ne sait pas du tout. Juste, il y a eu un feu vert. Donc, tant mieux. Ça avance, mais je ne saurais pas vous dire aujourd'hui ce qui s'est passé.
Et Paris, toujours pas.
Paris, toujours pas. C'est toute la folie du truc. On annonçait, Xavier Niel avait annoncé d'ailleurs sur ton plateau le soir là, sur BFM Business, il avait annoncé que ça allait être fin février, je crois.
Oui, c'est ça.
Bah non, toujours pas, a priori. Ça
pourrait être après... on n'est pas fin février, on lui laisse encore 2 semaines.
D'après certaines rumeurs, ça serait plus tard, donc on verra. Je crois que Stéphane Richard a parlé du printemps, donc on verra, hein. C'est pas pour de suite.
Ouais. Moi, ça me laisse complètement dubitatif.
Et tu passes le périph et pouf, il y a l'icône 5G qui s'affiche sur ton téléphone.
Oui, parce que toutes les communes limitrophes parisiennes,
elles sont actives.
Et pour l'instant, il y a toujours ce moratoire sur la 5G. On ne sait pas pourquoi ça bloque.
Politique qu'autre chose.
Finalement, pendant ce temps-là, alors évidemment, on vit une période un peu bizarre, mais on perd en compétitivité, mine de rien, parce que franchement, on envoie une image qui n'est pas forcément super positive à l'étranger, en se disant, regardez, à Paris, ils ne veulent même pas mettre la 5G parce qu'ils ont peur de quoi. On ne sait même pas en flûte. En plus, on ne sait même pas.
Même syndrome que les vaccins, c'est-à-dire que tant que c'est pas disponible, personne n'en veut, et puis dès que c'est disponible, tout le monde veut l'avoir.
Il y a des chances que ça fasse ça.
C'est un peu fatigant tout ça quand même.
Oui. Et d'ailleurs, j'en profite pour un petit instant promo pour vous annoncer que sur 01net, on vous prépare un grand dossier comparatif de la 5G des quatre opérateurs dans une grande ville. Ça sera dans les prochains jours, prochaines semaines.
Ouais, ça va.
On verra.
Et alors, rassure-nous, au niveau sanitaire, t'as pas mal à la tête quand tu fais tes tests 5G.
Non, alors j'en ai pris de la 5G.
Ça va.
J'ai les quatre opérateurs.
Oh, il a l'air en forme, je veux dire.
Ça a l'air d'aller.
Il est très connecté.
Hein, il fait des speed tests toute la journée. J'ai pas l'impression que ça lui ait changé quoi que ce soit. Hein.
Ça va.
C'est rassurant. on reviendra sur ce dossier 5G. On va parler maintenant de Tesla et évidemment en pointillé d'Elon Musk, qui est le porte-parole de Tesla et qui est porte-parole de plein d'autres choses aussi et qui est fan du Bitcoin visiblement, hein, Nicolas.
Oui, il aime bien le Bitcoin, on le sait, c'est sa passion de tweeter des choses sur le Bitcoin, de faire fluctuer le cours.
Quand on est le deuxième homme le plus riche au monde, ça, on peut avoir comme passion le Bitcoin.
Oui, après c'est un passe-temps pour lui, je pense qu'il fait des gros investissements, il voit son argent monter et descendre, il est mort de rire sur Twitter, ça l'amuse. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on se dit, est-ce que derrière le côté Elon Musk qui fait des blagues avec le Bitcoin, est-ce qu'il n'y avait pas un gros plan depuis le début, pour augmenter la valeur? Parce qu'on a appris cette semaine que Tesla avait investi 1,5 milliards de dollars dans le Bitcoin, donc c'est quand même immense pour une entreprise, et surtout que Tesla allait bientôt permettre aux gens d'acheter des voitures avec du Bitcoin. Donc ça serait une première pour un constructeur automobile.
Et quand on sait que le coût du Bitcoin en ce moment, c'est entre 45 et 50 000 dollars,
c'est ça.
Vous avez une Tesla pour un Bitcoin.
surtout qu'à la suite de cette annonce, le Bitcoin a pris 15%.
Et voilà.
Avoir déjà pris une dizaine de pourcents, parce qu'Elon Musk avait fait des tweets semaines précédentes.
C'est ça, il a mis hashtag Bitcoin dans sa bio sur Twitter, donc son descriptif, le Bitcoin a pris 15-20%. Et après, ils ont eu ce communiqué qui annonçait le fait que Tesla avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et c'est encore repris. Donc, t'imagines, c'est le meilleur investissement qu'une boîte ait jamais fait
quelques
jours. Prendre autant de valeur, et puis tu revends juste après,
C'est de la spéculation,
Tu fais 15%.
Ouais, c'est de la spéculation.
Après,
ça pose des questions, même, on va dire, réglementaires, finalement. Parce que est-ce que c'est pas le coût du Bitcoin n'est pas artificiellement boosté par un gros influenceur qui est Elon Musk? Est-ce que ça pose... je ne sais pas. En tout cas, philosophiquement, je trouve que ça pose des questions, finalement.
La difficulté avec ça et avec ce qu'on a aussi vu avec Robinhood et je sais, vous avez peut-être suivi Wall Street Bets.
Robinhood, qui est un système qui permet très facilement
d'investir. D'acheter donc des actions, entre autres. C'est que là-dedans, il y a des très gros joueurs comme Elon Musk et des gens qui peuvent perdre de l'argent sans être à la rue.
C'est pas très grave.
Et d'autre part, d'autres qui vont suivre ce qu'ils prennent pour un conseil. Et d'ailleurs, c'est en fait très, très encadré, le fait de donner des conseils en termes de bourse et d'investissement.
Oui, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui peuvent se retrouver ruinées.
Des histoires très positives de gens qui ont investi toute leur dette d'étudiants, donc parfois 10 000, 20 000 dollars, et qui ont doublé la mise, mais d'autres qui ont fait tout le contraire et qui ont tout perdu. Donc, il faut quand même être raison gardée. Oui, il y a des belles affaires à faire, mais ce n'est pas toujours pour les gens qu'on croit. Donc, parfois, on a l'impression que c'est pour le petit peuple, mais ça profite énormément à Elon Musk. 1,5 milliard de dollars qui ont pris 15%.
Mais vous savez qu'il y a des organismes financiers, j'en parle de temps en temps dans Tech & Co sur BFM Business, qui prévoient d'ici un an ou deux que le cours du Bitcoin dépasse les 150 000 dollars. C'est incroyable. Donc, effectivement, quand il y a des organismes financiers, je crois que c'est JP Morgan qui dit ça, c'est pas des rigolos, ces gens-là. Quand ils vous disent ça et qu'aujourd'hui, il est à 45 000, il y a plein de gens qui se disent, je vais gratter les fonds de tiroir et je vais investir pour essayer de spéculer. Mais malgré tout, c'est pas une monnaie. Hein, et Christine Lagarde l'a encore dit hier ou avant-hier, ce n'est pas une monnaie. Voilà.
Alors ça, et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la bourse depuis le confinement. Et la bourse et le Bitcoin ont en commun d'avoir des variations qui sont extrêmes et qu'il faut être être capable d'absorber.
Et qui sont fascinantes.
Si tu as mis beaucoup de tes économies dans quelque chose et que demain, ça perd 20%, tu t'inquiètes, tu vends, tu as perdu 20%. Alors que peut-être que ça va reprendre derrière. Mais donc, il y a ce côté nouveaux investisseurs qui peut être un peu effrayant. Et j'invite les gens à la prudence quand même sur ce genre de choses.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais.
Et puis le Bitcoin, c'est très, très énergivore.
Oui,
donc c'est vrai que le problème des transactions Bitcoin, c'est que ça consomme énormément d'électricité. Donc, c'est intéressant de ne pas focaliser que sur cette crypto-monnaie, parce qu'il y en a d'autres qui consomment beaucoup moins d'électricité pour fonctionner.
C'est vrai qu'Elon Musk se fait beaucoup critiquer sur ce point. C'est bien que tu le soulignes, Gonzague, parce que Tesla, c'est tout le message écologique de mettre fin à la voiture à essence, de vraiment être dans une énergie verte. Et tous ces investissements en Bitcoin, toute cette folie qu'il a avec les crypto-monnaies, elle consomme énormément, donc on lui reproche beaucoup de jouer justement avec des messages qui sont contradictoires.
Nico, pour terminer rapidement, un mot sur une fuite d'Android 12. Alors on ne sait pas si c'est une vraie fuite, enfin en tout cas si c'est quelque chose qui se confirmera, avec un Android 12 qui change de design.
C'est un peu une surprise, on ne s'y attendait pas trop et les images sont très étonnantes. Ça serait des images qui viennent d'un document interne de Google, donc ça laisse entendre que c'est vrai. Maintenant, est-ce que les images correspondront à la réalité ? C'est pas sûr. Entre-temps, il peut y avoir des évolutions. Mais en tout cas, ça montre en effet qu'après deux ou trois versions d'Android qui se ressemblaient avec des évolutions très légères, Google va vraiment changer beaucoup de choses avec cet Android 12. Il y a deux inspirations, c'est iOS et One UI de Samsung, je trouve. One UI dans le sens où tout va être très espacé. Il va y avoir beaucoup plus de vide, par exemple, dans le champ de notification qu'auparavant, des icônes plus gros. Donc le but sera peut-être de faire une interface plus simple à utiliser. Et iOS, parce qu'ils vont récupérer beaucoup de fonctions qui ont fait le succès de la dernière version d'iOS 14. Parmi elles, les widgets, vous allez me dire, Android, il les avait bien avant. Mais là, il y aurait un tout nouveau gestionnaire de widgets, beaucoup plus simple, avec des nouvelles formes, avec moins justement de complications qu'auparavant. Des nouveaux widgets liés aux conversations. Il y aurait au passage un gestionnaire de thèmes pour changer ses icônes. Là aussi, c'est une conséquence indirecte d'iOS 14. On en avait parlé, c'était les gens qui s'amusaient à personnaliser leurs icônes. Oui. Android va certainement l'utiliser pour en faire un vrai marché. Et pour le faire de manière un petit peu plus officielle.
Il y a des petits interrupteurs là, pour activer ou désactiver des fonctionnalités qui sont exactement les mêmes que ceux d'iOS.
Oui, complètement. Oui, ils ont l'air de récupérer. Il y a vraiment un rapprochement du design entre les deux. Et il y aurait aussi cet indicateur de vie privée qui vous dit si votre caméra ou votre micro est en cours d'utilisation.
Et ben voilà, Gonzague, on va attendre, on va voir. Hein. Peut-être qu'avec le Pixel 6, on aura iOS 14 sur le téléphone.
C'est
ce qui serait quand même une information assez courageuse. Hein.
Non, mais c'est pas étonnant. Les marques n'ont de cesse de s'inspirer des bonnes pratiques des unes et des autres.
Sûr,
et ça marche dans
évidemment.
Les deux sens. Si Samsung sort un truc très intelligent, il est probable que d'autres marques comme Apple le fassent. Si Apple a réussi à faire quelque chose qui tient de la masterclass en termes d'ergonomie, pourquoi pas
Je pense que pour Android, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum d'iOS pour que y ait un switch plus facile qui puisse se faire entre les utilisateurs d'iPhone et ceux d'Android. Hein.
De façon assez... je ne sais pas si c'est intentionnel, mais si tu fais deux interfaces qui se ressemblent énormément, est-ce que les gens qui ne sont pas initiés, un peu comme l'achat de télé, feront la différence ? Est-ce qu'ils sauront ce qu'ils ont acheté ?
Ça ressemble à l'iPhone et tout, etc. Voilà, c'est ça. Merci à tous les deux.
Merci avec beaucoup. Plaisir.
Nicolas Lelouch, 01net.com et Gonzague d'Ambricourt. À très vite, Gonzague.
Ouais,
merci d'être venu. Vous restez avec nous, le tourisme spatial, dans un instant, avec Antoine Meunier. On verra que, à partir de 6000 euros, on peut se faire quelques petites sensations. Mais vraiment, vraiment dans les airs. On en parle dans un instant. À tout de suite. Donc, 01 TV et puis sur BFM Business.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand merci d'être toujours avec nous, De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles technologies. Et vous le savez, on aime beaucoup ça, c'est l'actualité du spatial. Et quand Antoine Meunier me propose des sujets, je ne peux que l'accepter dans cette émission, parce qu'il est passionnant. Antoine, bonjour et merci d'être là.
Bonjour François.
On s'était retrouvés il y a quelques semaines, tout début d'année 2021. Et tu es avec nous pour revenir sur l'actualité spatiale. Rappelons que tu es journaliste à la chroniquespatiale.com, un site que je vous conseille bien sûr, si tout comme nous, ce sujet vous passionne et nous fait rêver. Et là, on va se focusser en fait sur le tourisme spatial. Alors le tourisme spatial, vous allez voir, c'est quelque chose qui vraiment touche plusieurs budgets. Ça commence à plusieurs milliers d'euros, ça peut monter jusqu'à des dizaines et des dizaines de millions d'euros si on est milliardaire. Et c'est passionnant parce que petit à petit, on se rend compte que, alors même si on est loin d'un tourisme de masse, petit à petit, eh bien, ça commence non pas à se démocratiser, mais on commence à en parler et on commence à voir des personnes civiles à partir comme ça dans l'espace. Et franchement, c'est ahurissant. Antoine, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de tourisme spatial, mais le tourisme spatial, finalement, peut commencer avec un petit budget à quelques milliers d'euros, où là, on peut se faire un petit vol parabolique.
Absolument, absolument. Mais j'ai envie de dire aussi, le tourisme spatial, dès que vous allez dans un parc, allez, on va dire la Cité de l'Espace, par exemple, oui. Déjà, vous faites du tourisme.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Faites du tourisme spatial. Alors, si on a envie de connaître des sensations qui soient quand même un peu extrême, on peut envisager, par exemple, pour quelques milliers d'euros, de monter dans un avion qui va simuler l'impesanteur, c'est-à-dire pendant 20 secondes à bord de cet appareil, vous allez flotter comme un astronaute à bord de la station spatiale. Ça ne dure pas très longtemps, 22 secondes précisément.
Et comment ça se passe ? Parce que je crois que tu l'as fait, ça ?
Je l'ai fait il y a un an et demi à peu près.
C'est quel type d'avion, par exemple ?
C'est un Airbus 300-310, donc un avion de ligne, tout ce qu'il y a de plus
donc
classique.
Qui a été réaménagé, je pense.
Qui est réaménagé complètement pour accueillir à la fois des expériences scientifiques. Parce qu'en fait, cet avion, c'est quoi ? C'est un laboratoire volant qui reproduit les mêmes expériences qu'on peut trouver sur la Station Spatiale Internationale. Et de temps en temps, la firme Novespace, c'est une filiale du CNES, elle ouvre ses vols au grand public. Alors, pour quelques milliers d'euros, pour, allez, 6 000 euros précisément, vous pouvez vous offrir les mêmes sensations qu'un astronaute.
Alors l'avion décolle.
L'avion décolle, et à un moment donné, cet avion, il va se cabrer comme ceci, il va monter pendant une vingtaine de secondes à peu près, et puis arrivé au sommet de sa parabole, l'avion va redescendre, et pendant 20 secondes, tout ce qui est collé au plancher va décoller du plancher, et vous allez vous retrouver...
Oui, on perd la gravité, en fait, c'est ça?
Non, on garde la gravité, mais on est plus soumis à la gravité. On est en chute libre. D'accord. Déjà, quand vous êtes en impesanteur, vous êtes en chute libre.
Mais alors, comment ça se passe? La Terre harnachée? Parce que d'un coup, tu te retrouves à...
Non, on n'est pas harnaché. Alors, on y va progressivement. Parce qu'il faut aussi que l'organisme comprenne ce qui se passe. Moi, je me souviens qu'on m'avait fait une injection de scopolamine. Parce que on peut être un petit peu...
C'est quoi la scopolamine ?
La scopolamine, c'est un médicament qui va faire en sorte que vous puissiez supporter le...
D'accord.
C'est un antivomitif.
Ok, voilà. D'accord, tout simplement.
Mm-hmm. Alors, vous supportez 15 paraboles, 20 paraboles, la 21e, ça commence à être un petit peu difficile.
Donc 15-20 micro-expériences où pendant 20 secondes,
on ne pèse plus rien.
D'accord.
On vit vraiment la même sensation que l'astronaute.
Et donc, comme ça, en apesanteur,
et c'est une sensation qui est un peu indescriptible.
Je ne peux pas la décrire comme ça.
Mais imaginez ce stylo là, et d'un seul coup vous le lâchez, il reste en suspension. Il ne pèse plus rien. Voilà.
Donc c'est 6 000 euros, ça. N'importe qui peut le faire ou est-ce
n'importe qui peut le faire sous réserve d'un quelconque antécédent
de
médical.
Santé,
mais à partir du moment où vous êtes en bonne forme, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci.
Bon, évidemment, c'est une somme, mais c'est déjà peut-être goûter
certaines
sensations.
C'est une première approche. Tout le monde ne peut pas aller dans l'espace.
Ça se fait en France, notamment.
Ça se fait en France.
D'accord.
Ça se fait en France. La firme Novespace est basée à Bordeaux-Mérignac.
Oui.
Et vous venez pendant quelques jours où on va vous expliquer le briefing de sécurité. Avec un peu de chance, vous pourrez voler avec un astronaute en activité.
Qui lui fera des expériences, peut-être.
Qui lui pilotera l'avion.
Ah, pilotera, d'accord.
Pilotera l'avion.
Moi, c'est risqué, là ? Il y a un risque ?
Non. Sincèrement, il n'y a aucun risque.
Aucun risque.
Moi, j'ai eu la chance de voler avec Thomas Pesquet pour...
C'est super.
C'est génial. Ouais. C'est la cerise sur le gâteau, ça.
C'est chouette. Il a l'air cool, hein, vraiment, Thomas Pesquet.
Il est très sympa. Super sympa.
Moi, je rêve de le recevoir dans cette émission. Alors, je sais qu'il a un emploi du temps chargé, mais...
Là, en ce moment, il est à l'entraînement.
Mais donc, oui, il est à l'entraînement,
et il repart le 20 avril, normalement.
Très bien. Donc ça, c'est la première étape, on va dire, hein, le vol parabolique, alors ça coûte de l'argent, mais disons que c'est...
Ça reste accessible malgré tout.
Toute proportion gardée.
Voilà.
Après, on est plus riche. Et là, on peut s'offrir un truc encore plus cool. C'est le vol suborbital.
Alors là, c'est encore autre chose. C'est un degré supérieur dans les sensations, si je puis dire. À bord d'un avion spécialement dédié.
Donc là, c'est Virgin Galactic.
C'est Virgin Galactic. Et c'est aussi Blue Origin qui propose l'un et l'autre cette possibilité. Alors pour l'instant, les vols ne sont pas ouverts actuellement, puisque Virgin poursuit les essais. Ça fait maintenant 2 ans que l'avion n'a pas volé, mais on continue. La société poursuit les essais, notamment de son avion aéroporté. Pourquoi ? Parce que l'avion, le dispositif de Virgin Galactic, c'est un avion qui va amener un autre appareil, un avion donc aéroporté.
Donc il y a un avion et dessus il y a un autre aéronef.
En dessous, le Spaceship 2, qui peut transporter 6 passagers et 2 pilotes. Là, on va monter très haut. Hein. On va monter à plus de 100 km d'altitude et on va vivre pendant à peu près 5 minutes, 4 à 5 minutes d'un pesanteur.
Alors attends, pour qu'on comprenne bien, il y a un avion qui a, sous son flanc, accroché un autre appareil.
Une petite navette.
Qui va elle-même décoller au bout d'un moment.
Qui va mettre à feu son moteur pour grimper à peu près à Mach 3 jusqu'à 100 km d'altitude. Là, vous pouvez voir la Terre, vous voyez la courbure de la Terre, vous voyez l'horizon sur à peu près 1000 km, si je ne dis pas de bêtises. Et pendant 4 minutes, une fois arrivé au sommet de la courbe, pendant 4 minutes, vous pourrez observer la courbure terrestre. Alors là, ça a un prix, $250,000. Tout le monde ne peut pas se payer une telle possibilité.
Mais tu disais que c'était à l'arrêt, ça veut dire que... Ça fonctionne aujourd'hui ? Il y a des gens qui le font ?
Pour l'instant, non. Il n'y a eu que des vols d'essai qui ont été faits avec Virgin Galactic. Il faut savoir que Virgin a connu quand même 2 gros accidents extrêmement graves. Il y a eu un essai au sol en 2007 qui a entraîné un mort. Il y a eu encore un avion qui a été perdu en 2014 et qui a coûté la vie à un pilote d'essai.
Ah oui, d'accord.
Donc, Virgin, moi j'avais posé la question au PDG de Virgin il y a quelques années. Je lui ai demandé quand est-ce que vous pourrez ouvrir les vols, il m'a dit quand on sera prêt. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas donner de date.
Non.
Ouais. Dans l'immédiat, c'est pas possible. En revanche, Blue Origin, qui a également son propre dispositif, mais qui est différent, puisque c'est une fusée suborbitale qui va lancer une capsule.
Alors, si vous êtes avec nous à la télé ou en vidéo sur zeronet.com, on le voit. Hein, c'est tout à l'heure, on a vu donc le Virgin Galactic avec cet avion et l'aéronef dessous, et là, on voit cette fusée qui décolle de Blue Origin. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors là, ce qui se passe, c'est que la capsule, elle va être montée. Elle va monter à 100 km d'altitude. Et à bord, vous avez 6 personnes. Il pourra y avoir jusqu'à 6 personnes dans cette capsule. C'est un vol qui va prendre à peu près, là aussi, 4 minutes. Il faut préciser quand même une chose, c'est que le tourisme spatial, ces 2 dispositifs, ils n'accueilleront pas uniquement que des passagers payants. Il y a aussi des expériences de la NASA qui vont être intégrées, même de plusieurs agences spatiales, des institutions qui veulent faire voler pour un prix plus accessible que celui, de l'ISS, des charges utiles scientifiques. Et il est même question, je crois, de faire voler des astronautes pour des vols plus courts, mais qui permettront aussi de tester des charges utiles scientifiques.
Donc, Virgin Galactic, aujourd'hui, Voilà, il travaille, mais il n'y a pas de date.
Pour l'instant, il n'y a pas encore de date.
De commercialisation.
C'est à chaque fois repoussé.
Oui, c'est à chaque fois
repoussé. Blue Origin, par contre...
Là, c'est un peu plus concret.
Alors là, c'est déjà plus concret. Il y a encore un vol d'essai qui est prévu. Il y a déjà eu à peu près 15 vols qui ont été faits. Et si tout va bien, Blue Origin envisage un premier vol piloté au mois d'avril.
Et ça appartient à qui, ça, Blue Origin ?
Blue Origin, c'est Jeff Bezos.
C'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos.
C'est un monsieur qui s'appelle Jeff Bezos et qui est un passionné, comme, finalement, comme Elon Musk, hein,
de
la conquête spatiale. Mais à plus long terme, l'ambition de Jeff Bezos, ça serait de transférer les industries lourdes dans l'espace. Mais là, on n'y est pas encore.
Non,
ça relève de la science-fiction.
Donc, ça veut dire que dans quelques années, ce vol comme ça avec Blue Origin... Ce vol suborbital, c'est quelque chose d'envisageable.
Mais
là aussi, les prix sur Blue Origin, on est de toujours
Origin,
à 150 000 $.
Blue Origin ne communique pas trop sur les prix. Par contre, pour Virgin, là, je peux le dire avec, avec certitude, le prix, ça sera plutôt de 250 000 $ par personne.
Oui. Voilà, donc si on veut partir en famille, il faut commencer à économiser.
Il faut commencer, mais disons que ce prix, ça englobe pas uniquement le vol. Il faut que ça... L'expérience,
oui,
il y a toute
sûr,
une expérience à vivre. Il y a un entraînement de quelques jours à passer. Vous venez sur le
site. Oui, c'est une expérience.
C'est une expérience.
Le feu d'artifice, c'est le
la
vol.
La cerise sur le gâteau, c'est vraiment le vol à bord du Spaceship Two.
Mais on est d'accord qu'il faut que tout ça se mette en place quand on aura zéro risque. Alors, le zéro risque n'existe pas.
Non.
Mais on ne peut pas envisager qu'il y ait des problèmes. C'est-à-dire que...
On ne peut pas accepter, si vous voulez, qu'il y ait un accident. Ce n'est pas possible. Et je pense que Virgin l'a très bien compris, compte tenu
des deux catastrophes déjà qui leur sont arrivées.
Ça fait beaucoup. Ouais. L'idée, ça serait vraiment d'arriver à une expérience qui soit la plus sécurisée possible. Et c'est ça le plus important. Mais... j'ai envie de dire, même en sortant de chez soi le matin, on prend un risque.
On prend un risque aussi
de se faire renverser par une voiture.
Alors, on le voit. Hein, bon, Jeff Bezos qui a décidé, d'ailleurs, il y a quelques jours de cela, de se retirer de ses activités, d'Amazon, pour se concentrer peut-être, entre autres, à Blue Origin, mais aussi à une multitude de projets, hein, puisque, évidemment, en étant l'homme le plus riche au monde, on a deux, trois trucs à faire dans la vie. Et Elon Musk, alors, il en est où ? Est-ce que lui, il travaille aussi ? Alors, on sait qu'il est à fond sur la conquête spatiale, mais est-ce qu'il prépare ou est-ce qu'il envisage ce type de vol un peu suborbitaux ?
Alors, lui,
il a des projets là-dessus ou pas ?
Plutôt des vols orbitaux.
D'accord. Donc, on va en parler dans un instant.
Voilà. C'est plutôt les vols orbitaux. Les vols suborbitaux, c'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. La priorité de Musk, c'est bien sûr Starlink, dont on continue.
Oui.
Il y a quasiment un lancement par semaine peut-être pas un par semaine.
Donc, Starlink, rappelons que ce sont les petits satellites,
qui permettront
à terme de
couvrir une constellation avec un Internet très haut débit. L'ambition ultime d'Elon Musk, c'est d'envoyer des hommes, c'est d'aller sur Mars. Mais bon, là aussi, je l'avais dit il y a quelques semaines, on n'y est pas encore.
Et tu n'as pas changé d'avis.
Et je ne changerai pas d'avis là-dessus.
Pas pour tout de suite.
Soyons bien clairs. Non, dans l'immédiat, Elon Musk, lui, il a une capsule spatiale qui s'appelle Crew Dragon, qui permet maintenant de faire la navette entre le sol et l'ISS. Elle a déjà volé deux fois, elle va revoler une troisième fois au mois d'avril, avec Cocorico, Thomas Pesquet, qui est passager sur cette mission. Mais surtout, cette capsule, c'est une capsule privée. Donc, en théorie...
Il pourrait emporter, des civils, s'il le désire.
Il va le faire. Voilà. Il va le faire, c'est prévu.
Alors, c'est prévu. Donc, vol parabolique, quelques milliers d'euros, tu l'as fait, c'est déjà pas mal. Après... Quand ça sera prêt, ou Virgin Galactic ou Blue Origin, là, ça sera dans les années qui viennent, 250 000 $.
Blue Origin, c'est pour le mois d'avril.
C'est pour le mois d'avril.
C'est pour le mois d'avril, a priori.
Ça ne sera pas l'ouverture commerciale le mois d'avril.
Ça sera déjà un premier vol piloté. Ça sera déjà un premier vol piloté. L'ouverture des vols privés, oui. Les vols commerciaux, je pense que ça sera dans un deuxième temps. Là aussi, Blue Origin a été extrêmement prudent.
Il ne communique pas de date ?
Non. D'accord. Mais il communique déjà sur le premier vol privé, et a priori, ce sera le mois d'avril.
Et puis alors après, si vous êtes vraiment très très riche, si vous avez quelques dizaines de millions d'euros, 50, 60 millions d'euros, là, eh bien, vous pouvez prétendre à eh bien, aller vraiment dans l'espace et passer un séjour sur l'ISS.
Oui. Alors déjà, sur l'ISS, il y a eu plusieurs passagers payants. Le premier, c'est il y a 20 ans. Déjà, il y a 20 ans, l'ISS n'avait pas du tout la même configuration qu'aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que la station spatiale, c'est un gros truc. Hein. C'est l'équivalent du Stade de France. Imaginez le Stade de France dans l'espace. C'est une très, très
grosse structure. C'est incroyable ce que tu nous dis, parce que je suis persuadé que la plupart des personnes qui sont avec nous, qui nous écoutent ou qui nous regardent, n'imaginaient pas la taille du Stade de France dans l'espace.
Mais même moi, je ne l'imagine pas à la base, mais c'est vrai, c'est un dispositif qui a été assemblé sur plusieurs dizaines de missions. Et en 2001, on a accueilli le premier passager payant. C'était un milliardaire texan, il s'appelle Denis Tito. Il avait une soixantaine d'années.
2001,
il y a 20 ans.
Il était parti par Soyouz, non ?
Il était parti par Soyouz. Il a volé avec deux Russes. Il était venu s'entraîner aux États-Unis.
Et ça lui avait coûté moins cher à lui.
20 millions.
Enfin, il y a 20 ans, cela dit. 20 millions à 20 ans.
20 millions il y a 20 ans. Ouais. Voilà. Alors, d'autres passagers l'ont suivi.
Là, ça doit être assez roots quand même. Hein.
Ça doit être, pardon ?
Roots, je veux dire, oui. Dans le sens où, c'est pas. On n'est pas dans un 5 étoiles.
Ça reste quand même un peu du camping. Hein.
C'est du camping, on est d'accord. Ouais.
Il faut quand même accepter certaines contraintes. Il faut accepter un entraînement. Tout le monde ne peut pas le faire. Au total, il y a eu 7 passagers payants sur l'ISS entre 2001 et 2009. Il devait y en avoir d'autres. Il devait y avoir notamment en 2015 une chanteuse britannique, Sarah Brightman, qui s'est entraînée d'ailleurs très sérieusement pendant plusieurs mois. Mais à un moment donné, elle a dû arrêter. Parce que
elle n'était pas prête physiquement.
Officiellement, c'était pour des raisons personnelles. Ça n'engage que moi, mais je pense que c'était aussi physiquement. Ça représente quelque chose d'extrêmement difficile.
Bien sûr,
un vol spatial, c'est pas tout le monde.
Bien sûr. Il y a la peur aussi, peut-être de l'incident.
J'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense vraiment les contraintes physiques. Quand vous décollez sur Soyouz, vous encaissez 4 fois votre poids. Ça fait beaucoup, 4 fois son poids. 3 à 4 fois son poids.
Alors, tu parlais de people, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Tom Cruise ?
Oui.
Tom Cruise veut aller sur l'ISS pour filmer.
Alors, Tom Cruise voulait y aller.
Alors, c'est pas une blague.
C'est pas une blague. Tom Cruise voulait y aller avec le réalisateur Doug Liman à bord du Crew Dragon. C'est ce qui avait été annoncé un peu après la rentrée 2020. Là, maintenant, c'est le silence radio. En revanche, et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux vols privés qui vont avoir lieu à bord du Crew Dragon. Il y en a un qui est prévu à partir du mois d'octobre, et un autre au début de l'année 2022.
Mais pourquoi tu nous dis ça ? Est-ce qu'on pourrait imaginer que Tom Cruise y soit en secret
Pour l'instant, ça n'a rien à voir.
Parce que moi, ce que j'avais lu, et je crois que je l'ai lu sur ton site, qu'en fait, Tom Cruise imaginait pouvoir partir sur l'ISS et tourner des scènes du nouveau Mission Impossible.
Je ne sais pas si c'est Mission Impossible, mais effectivement, il était
question...
Ou alors
un film, voilà.
Il est question qu'il tourne un film. Il est question qu'il tourne un film à bord de l'ISS, mais dans l'immédiat, là, pour l'instant, c'est lettre morte.
Antoine, juste pour qu'on comprenne bien et que tu nous récapitules, si demain je vais aller sur l'ISS, comment je peux y aller, en fait ? Quels sont les moyens de locomotion qui sont à ma disposition ?
Si tu envisages d'aller sur l'ISS, il y a deux moyens possibles. Il y a la capsule Starliner de Boeing, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore prête. Il y a éventuellement le Soyouz, mais aussi, il y a surtout le Crew Dragon de SpaceX, encore Elon Musk, donc. Et justement, il y a deux vols privés qui sont prévus, donc un à la rentrée et un autre en octobre, pardon, et un autre début 2022. Alors, le premier vol qui est prévu à la rentrée, c'est un vol qui s'appelle Inspiration 4.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est le nom qu'on a donné à ce vol, qui a été commandité par un monsieur qui s'appelle Jared Isaacman. C'est un milliardaire américain qui a fait fortune avec un moyen de paiement. tout simplement, et qui a décidé d'affréter un vol à bord de Crew Dragon, dont il sera le commandant. Et c'est lui qui finance tout ça. Hein. Il le finance sur ses...
Il le finance, il pilote, il fait
alors,
tout.
Alors, il va être le pilote, il va être le commandant de bord de cette mission. D'accord. C'est un peu particulier. Il faut quand même préciser qu'il a une expérience de pilote. Il a une qualification sur jet militaire. Il a même fondé une société qui s'appelle Draken International et qui vend des prestations de simulation de combat auprès de l'US Navy et de l'US Air Force.
D'accord, donc il est quand même dans le sérail.
Et il est quand même voilà. plus ou moins dans
c'est
le sérail.
C'est pas un gars qui s'est dit, tiens, demain, je vais non. piloter le Crew Dragon.
Et... Mais les trois personnes qui vont
parce que là, franchement, j'y serais pas allé, vraiment.
Moi non plus. Moi non plus. Mais les trois personnes qui vont l'accompagner sont des personnes de la société civile, des personnes comme toi ou moi, d'accord. qui n'ont jamais volé à bord d'un véhicule spatial. Et la sélection va se faire sur tirage au sort.
Parce que ces personnes ne paieront pas,
non.
C'est ça?
Voilà.
C'est-à-dire que lui est mécène dans ce cas-là et offre les trois places.
L'objectif de ce vol, c'est de collecter des fonds pour un hôpital américain
d'accord.
qui soigne gratuitement des enfants.
C'est une grosse histoire de com', en fait, c'est finalement.
On peut voir ça sous cet angle.
Avec une aventure spatiale.
Avec une aventure spatiale, d'accord. mais quand même avec un but caritatif.
Donc ça, c'est le premier projet.
Alors ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, il est commandité par une société qui s'appelle Axiom Space. C'est une firme qui est co-dirigée notamment par un ancien astronaute. Et cet ancien astronaute, qui s'appelle Michael Lopez Alegria, va commander ce vol. Il a volé déjà lui-même 4 fois sur l'ISS, mais il emmène avec lui 3 personnes, 3 milliardaires, qui ont une expérience de pilote d'avion, notamment. Il y a un ex-pilote de chasse israélien qui fera partie de l'aventure. Ils auront tous une qualification de spécialiste de mission. Mais ce vol, il aura quand même, malgré tout, un but professionnel, dans la mesure où la société Axiom Space est une société qui va mettre au point une station privée qui sera opérationnelle, si tout va bien, à partir de 2025, et qui pourra accueillir des passagers payants, mais aussi des professionnels, des universitaires qui souhaitent tester dans un cadre spatial et surtout en apesanteur leurs expérimentations.
Antoine, on est sur l'ISS. Qu'est-ce qu'on fait de sa journée quand on est là-haut? Parce qu'il n'y a pas de spa, il n'y a pas de piscine.
Hein, non.
On est quand même, comme on disait, on campe. Qu'est-ce qu'on fait quand alors, on est comme ça, civil, et qu'on a payé cette somme-là?
Le but, quand même, c'est aussi que ça soit rentable. Hein. Il faut être bien clair. Les passagers payants qui sont venus à bord de l'ISS dans les années 2000 avaient quand même un batch d'expérience à réaliser. Il faut quand même aussi que vous êtes présent sur l'ISS. Il y a des professionnels qui sont à bord. Il faut aussi que ça serve. Alors, je ne veux pas non plus minimiser ce qu'avait fait Denis Tito en 2001. Lui, il a pris des photos, surtout. Hein.
Faut d'accord, être, oui. Bon, après,
faut être voilà. très clair. Oui. Mais il s'est fait plaisir.
Parce que ça dure un minimum de temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter et on ne redescend pas tout de suite.
Bah, pour rejoindre l'ISS, il faut 2 jours.
Oui.
On peut le faire en quelques heures, mais la procédure la plus économique, c'est de monter en 2 jours. Une fois que vous êtes arrivé, le vaisseau se connecte. Vous passez 7 jours sur la station spatiale.
7 jours?
7 jours à peu près, et une fois le séjour terminé, vous redescendez.
D'accord. Bon, tout ça est incroyable. Est-ce que ça va se démocratiser, à ton avis, tout ça? Parce que c'est la question. Est-ce que ça va rester des expériences pour des happy few, on va dire comme ça, ou est-ce que finalement, petit à petit, la sécurité sera agrandie, améliorée, il y aura de plus en plus de concurrence et peut-être que les prix vont baisser. Est-ce que c'est...
Bah, déjà, les 2 vols privés que je viens d'évoquer, Inspiration 4 et AX1, 2 vols privés d'un coup, moi j'avais jamais vu ça. Alors je pense que c'est une petite brèche déjà qui est en train de s'ouvrir. L'idée pour les agences spatiales, ça serait maintenant de sous-traiter, de laisser l'orbite basse de la Terre au secteur privé, de manière à ce que les agences puissent se concentrer sur l'exploration dans l'espace lointain, c'est-à-dire la Lune ou encore la planète Mars. Il faut être clair, la NASA, elle n'a pas les ressources pour exploiter à la fois la Station Spatiale Internationale Et ensuite...
imaginer Mars ou la Lune.
Imaginer la Lune ou, ouais, ou la planète sûr. Mars. C'est pas possible. Donc l'idée, on va peut-être assister effectivement à cette privatisation de l'orbite basse. Ça peut être une bonne chose pour le secteur spatial.
Alors évidemment, une multitude d'articles vous attendent sur lachroniquespatiale.com pour revenir sur... ces sujets passionnants. Merci beaucoup Antoine, toujours
merci,
un plaisir d'écouter
plaisir partagé.
Ton savoir. Antoine Meunier, donc journaliste à la Chronique Spatiale. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis, à la fois sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01TV, sur la chaîne 01TV, sur les box, et puis aussi sur BFM Business. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV.